Bonne salutation de l'église Action biblique des montagnes neuchâteloises. C'est un long déplacement. J'aimerais qu'il y ait plus de monde le dimanche matin sur les routes. Que les routes soient encombrées parce qu'il y a tellement de gens qui vont à l'église, ou dans, qui veulent vivre un culte. Et puis, c'est aussi un retour aux sources. Je suis tellement content, je suis très heureux d'être dans ces montagnes neuchâteloises. Je suis également français. Voilà, priez pour moi. Mais au niveau spirituel, Genevois, j'ai grandi spirituellement dans le canton de Genève, très heureux d'être ici et de pouvoir vivre ce temps de culte avec vous. Un culte que l'on veut centrer sur notre Seigneur Jésus. Et lorsqu'il était sur la terre, à un moment, il a posé cette question. « Qui suis-je ? » Et Pierre a répondu tout de suite, comme à son habitude, « Tu es le Christ, le Messie, le Fils de Dieu. » Oui, l'envoyé tout particulier. Et lorsqu'il a dit ça, Jésus a répondu en deux temps à Pierre. Il a dit « Tu es heureux, parce que c'est mon Père qui t'a révélé cette vérité. C'est un privilège de savoir qui est Jésus. » Mais il a continué en parlant de sa mission. Et voilà comment le texte continue. « Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. » Pierre, l'ayant pris à part pour le reprendre, dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. » Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Passage de Matthieu 16, qui nous rappelle que nous témoignons d'un maître crucifié. Nous suivons un maître torturé, mis à mort et glorifié. Et ce message est porté, et il était notamment porté par l'apôtre Paul, choisi par Dieu, choisi par Christ pour se faire connaître, et il en témoigne notamment lors de sa dernière lettre, la deuxième épître à Timothée, et dont nous allons lire un passage, donc de la deuxième épître à Timothée. Paul est en prison, il sait que sous peu, sous quelques mois probablement, il sera exécuté. Et il écrit la dernière lettre qui nous est restée. On parle de son testament spirituel. Dans cette lettre, il donne ce qu'il veut laisser à Timothée, juste avant sa mort, et ce que le Seigneur a permis que nous ayons, nous aussi, des choses essentielles, importantes, que Paul laisse avant de quitter cette terre, avant d'être exécuté à cause de sa foi. Et je propose de lire donc dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 2, et je vais lire une partie du chapitre 2 en plusieurs fois. Je vais lire un ou plusieurs versets, faire quelques commentaires et puis continuer ma lecture. Donc si vous souhaitez suivre, gardez bien le texte ouvert. 2 Timothée, chapitre 2. Et je vais lire dans la version Colombe. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ Jésus. » Et je m'arrête là pour l'instant, avec cette idée, première idée de « laisse-toi fortifier ». Fortifie-toi, dans certaines versions, c'est « puise tes forces dans la grâce ». Et une traduction mot à mot donnerait « laisse-toi fortifier par la grâce ». Ce n'est pas Timothée qui va se fortifier tout seul. Abandonne-toi à la grâce de Dieu. Ne cherche ni à te justifier, ni à mériter les faveurs de Dieu. Laisse Dieu agir en toi par sa parole. Expose-toi à la parole de Dieu. Laisse Dieu agir en toi par son esprit. Que nous soyons, finalement, lorsqu'on est chrétien, si on est chrétien de longue date ou plus jeune dans la foi, notre force vient de notre union avec Christ. Et c'est un rappel qui m'encourage à résister au mal, parce que je sais que j'en ai la force lorsque je suis uni à Jésus-Christ. Et c'est une réalité qui m'encourage, qui me pousse à dépendre de Dieu. Et je vais chercher dans sa parole ce qui peut m'aider, parce que c'est un guide fiable. Je sais aussi, comme je suis uni à lui, que mes prières sont entendues, qu'elles sont précieuses, qu'elles sont désirées. Et puis je sais que Christ est mon modèle. Pas dans ses miracles, pas dans ses démonstrations de puissance qui prouvent qu'il est Dieu, mais dans son amour, dans ses priorités de vie, son souci des personnes, dans son désir d'obéir au Père en toutes choses. Et c'est une vérité que nous rappelons à chaque baptême. Notre vie est liée à celle de Jésus. Nous sommes fortifiés. Nous avons les forces pour vivre pour lui. Je continue le texte. Verset 2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Paul a dit, elle a écrit, je lis au verset 14 du chapitre précédent, « Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit. » On doit garder cette parole de Dieu, veiller à ce qu'elle ne soit pas altérée, mais aussi il doit veiller à ce que le message soit communiqué. La foi se transmet, et elle se transmet par l'intermédiaire d'êtres humains. C'est une des grandes responsabilités de l'Église. Il faut non seulement rayonner dans un monde hostile, mais aussi transmettre cette foi apostolique. On peut imaginer la chaîne ou un relais, comme dans les courses d'athlétisme, on transmet le relais à la personne suivante, sauf que là, la course dure un peu plus longtemps, ça fait 2000 ans que ça court, et voilà, on continue à transmettre le relais. C'est un petit peu ces recettes de cuisine qui se transmettent de génération en génération dans la famille. On va donner tous les ingrédients, on va normalement, si on fait bien les choses, donner le petit secret qui va permettre que, voilà, il faut que ce soit dans la bonne casserole, il y a le petit ingrédient miracle, pour que la personne puisse reproduire à l'identique. Bon, dans les recettes de cuisine, en général, ça ne marche jamais, mais on essaye, en tout cas. Et la recommandation de Paul, de transmettre à des personnes qui soient capables de transmettre à d'autres, reste valable aujourd'hui. Elle est toujours actuelle, et c'est même une urgence encore. Il est nécessaire que la foi soit transmise de génération en génération. Déjà dans la famille, d'une famille chrétienne, on peut montrer le résultat de l'engagement, montrer une vie transformée et montrer aussi que nous avons besoin de la grâce, besoin de demander pardon, besoin que Dieu agisse en nous. Dans l'Église, vous vivez ce temps-là dans le cadre de ce qui se passe avec les enfants, études bibliques, prédications, toutes des occasions privilégiées de transmettre l'enseignement. Et je ne peux que vous encourager à continuer à prier pour chacune de ces occasions. Et puis nous transmettons aussi un contenu, ce que tu as entendu de moi, c'est un contenu qui est transmis. Notre vie est importante, bien sûr, mais on ne peut pas résumer l'Évangile simplement à un exemple de vie. Il est nécessaire qu'il y ait les paroles. Il faut un Évangile qui soit annoncé et que l'Évangile lui-même et ses conséquences soient dits et redits. Et tout le Nouveau Testament est rempli de ce genre d'exhortation. Timothée doit enseigner, Timothée 4, versets 11 et 16, à Timothée 6, 2, 2 Timothée 4, 2. Paul écrit la même chose à Tite, Tite 2, Tite 3. Il rappelle son enseignement aux églises, Colossiens 1, 25 et 28, 1 Thessaloniciens 2, 12. J'ai donné ces références pour montrer que c'est quelque chose d'important de dire « Enseignons les vérités de l'Évangile ». Jésus a passé énormément de temps à enseigner aux foules. Je crois que vous avez aussi parcouru l'évangile de Marc il y a quelque temps ici dans cette église. Et on voit que pendant un grand moment, l'activité principale de Jésus, c'était d'enseigner. Il a enseigné les foules. Et puis, ensuite, dans un deuxième temps, il a pris ses disciples à part et il a continué à les enseigner. Alors bien sûr, on ne va pas simplement transmettre des doctrines. On veut transmettre la vie qui vient de notre union à Jésus-Christ. Le chrétien n'accumule pas des connaissances. Le chrétien va vivre une nouvelle relation avec Dieu. Mais ne négligeons pas ce qui est enseigné. Et si je reviens à mon exemple de recette de cuisine, j'ai besoin d'avoir tout. Alors bien sûr, si je connais tous les ingrédients, mais que je n'ai jamais essayé, il va me manquer cette habitude et je ne vais pas réussir le plat familial, le plat qui se transmet de génération en génération. Je ne vais jamais le réussir parce que je n'ai jamais cuisiné. Mais si je suis très très fort en cuisine, si j'ai une habitude immense, mais que je n'ai pas les ingrédients, je n'ai pas ce qu'il faut, même en ayant le nom du plat, même en ayant une belle photo du plat, il y a assez peu de chances que je réussisse à le reproduire. J'ai besoin de ces connaissances, besoin de savoir comment tout fonctionne. Je m'en suis rendu compte d'ailleurs lorsque de France, je suis arrivé en Suisse pour cuisiner. En France, j'avais l'habitude de cuisiner au gaz. Vous allumez le gaz, la chaleur est là. Vous éteignez le gaz, la chaleur s'arrête. Et puis j'ai cuisiné avec des plaques électriques. Vous allumez, la chaleur met beaucoup de temps à arriver. Puis elle est enfin là. Et ensuite, vous arrêtez. Mais la chaleur est encore là pendant un petit moment. Et j'ai réussi ce miracle de transformer au moins en apparence des petits pois en lentilles. Pas au niveau du goût, hein. Mais des belles boules vertes se transformer en boules beaucoup plus brunes et beaucoup plus petites. Quand on manque certaines connaissances, eh bien on n'arrive pas à grand-chose. Alors, je fais encore deux remarques, donc sur la transmission de l'Évangile, pas sur la cuisine, et il vaut mieux. C'est que pour transmettre quelque chose, il faut connaître. Hein, quand on parle de la lecture de la Bible, son étude, lire des livres chrétiens. Je suis pasteur au Locle et on a un point commun avec Genève, c'est qu'on a le privilège d'avoir dans notre ville une maison de la Bible. C'est un vrai privilège d'avoir accès à d'excellents livres et ne nous privons pas de ce privilège pour étudier et pour mieux connaître qui est Dieu. Il y a aussi bien, le privilège de pouvoir être librement dans le cadre de vivre le culte, de vivre ce rassemblement de l'Église. Prédication, il y a les études bibliques, il y a toutes les formations diverses. Jonathan Meyer est au cours de perfectionnement biblique avec un certain nombre de jeunes qui profitent de cette occasion pour grandir, pour aussi grandir dans leur foi et avoir un certain nombre de connaissances qu'ils pourront transmettre. Et puis, deuxième remarque, l'enseignement reçu est confié à d'autres qui pourront enseigner. On va transmettre dans le cadre de l'Église, mais le but, c'est que l'enseignement reçu soit transmis à des personnes qui ne connaissent pas encore Dieu. Et que ensuite ces personnes-là connaissent qui est Dieu et soient capables, à leur tour, d'enseigner. Puise tes forces en Christ. Transmets fidèlement l'enseignement reçu, sans rien ajouter, sans rien retrancher. Et Paul continue, verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Christ Jésus. Il n'est pas de soldat en campagne qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir le fruit. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera l'intelligence en tout. Sois prêt à souffrir pour l'Évangile. Prends ta part de souffrance. Souffre avec moi. Paul a commencé, il faut se fortifier en Christ pour transmettre, mais aussi parce que cette transmission coûte. Elle entraîne difficulté, souffrance. J'ai l'impression que Paul est un mauvais publicitaire. Il ne vend pas uniquement les bons côtés du produit, comme ça se fait habituellement. Imaginez, ce produit, cette barre chocolatée, c'est un super goût, mais ça a tellement d'additifs qu'on se croirait dans une usine chimique à balles. Ou alors, un super nouveau téléphone, des fonctions extraordinaires, mais bon, il sera dépassé dans 6 mois, il est beaucoup trop cher pour ce que ça vaut, et il va vous faire perdre beaucoup de temps. Imaginez des messages publicitaires comme ça. Ben, c'est ce que Paul fait à peu près. Mais il est clair, ceux qui servent Christ passent par la souffrance. Prends ta part, tu ne seras pas le seul, Timothée. Nous devons chacun passer par la difficulté. Et il donne 3 images. L'image du soldat, le soldat qui laisse de côté ce qui concerne la vie civile, qui a un confort limité, qui dort, bien sûr, mais pour reprendre des forces et être prêt au combat. Il est entier à sa tâche, il veut plaire à celui qui le paye, hein, dans le cadre du mercenaire, et il désire remporter la victoire. Une expédition militaire est généralement longue, et le soldat doit être prêt à de nombreux sacrifices. L'athlète, 2e image. Pour remporter le prix, l'athlète doit s'imposer toutes sortes de règles. Entraînement nombreux, hygiène de vie, alimentation, préparation pénible. En ce moment, c'est la fin de la saison d'hiver et tous ceux qui concourent dans les disciplines de ski de fond, ski alpin, se sont entraînés de longs mois pour être en forme maintenant. Ils ont fait depuis l'été dernier de longues séances sans neige pour être maintenant prêts. Et en plus, ils doivent respecter les règles, des règles strictes parfois. En ski, typiquement en ski alpin, le vainqueur, c'est pas celui qui va le plus vite en bas. Ah non, c'est celui qui va le plus vite en bas, mais en ayant passé toutes les portes. Ça change un petit peu la donne. Et puis le cultivateur. Bon, le cultivateur, c'est différent. Lui, il a un métier tranquille. Il fait rien pendant 11 mois et quand tout a poussé tout seul, il n'a plus qu'à récolter ce qui vient. Un peu comme c'est bien pour Timothée, lui qui est pasteur, c'est pareil pour le pasteur. Il fait rien pendant 6 jours et puis il travaille juste le 7e jour. Non, c'est pas vrai, il travaille le 7e jour le matin seulement. Le cultivateur doit travailler dur. Il doit préparer la terre, être patient. Il doit être persévérant pour enfin profiter de la récolte. Et après ces trois images, Paul continue en encourageant Timothée à réfléchir à ce qui est dit. « Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera l'intelligence en tout. » Et je fais trois remarques à propos de ce passage. La première, c'est que Dieu nous a donné un cerveau. Des fois, aux jeunes fans de téléphones portables, je leur dis que le cerveau, c'est une sorte d'application gratuite qui se développe au fur et à mesure qu'on s'en sert. Mais Dieu encourage à ce que nous prenions du temps pour réfléchir. On n'a pas toute la compréhension instantanée. Oui, on est unis à Christ. Nous avons le Saint-Esprit. Mais nous n'avons pas toute la compréhension instantanée. Deuxième remarque, comprendre l'image avec le soldat, l'athlète, le cultivateur, comprendre qu'ils doivent travailler dur, c'est une chose. Mais comprendre ce que cela veut dire pour ma propre vie, de manière concrète, va demander un effort supplémentaire. La Bible me donne tout ce dont j'ai besoin, mais je ne suis pas un automate. Je vais devoir réfléchir, voir comment je peux appliquer ce que j'ai compris à ma propre situation. Troisième remarque, prenons le temps de méditer. Prenons le temps de nous arrêter de temps en temps. Prendre plusieurs minutes. Je reviens à tel enseignement. Peut-être je reprends des notes que j'ai prises le dimanche ou je reviens sur le site de l'Église et puis je réécoute le message ou cette partie du message qui m'a fait réfléchir. Nous avons besoin que Dieu éclaire sa parole. Nous prenons un temps de prière, mais nous prenons aussi ce temps pour réfléchir sur notre vie. Bien sûr, nous n'en avons pas toujours le temps. Il y a certaines journées qui sont tellement remplies qu'on n'a pas ce temps de se poser, de réfléchir. Le temps nous manque. On le reconnaît sans honte. Mais on doit aussi reconnaître qu'il y a d'autres journées où nous pouvons prendre ce temps et réfléchir, nous arrêter. Alors, par rapport à ces quelques versets que j'ai lus, je propose trois remarques d'application maintenant. En annonçant la souffrance, Paul annonce un prix à payer. La transmission de l'Évangile prend de l'énergie. Elle est pénible. Elle demande des efforts importants, que ce soit dans le cadre de la prédication, que ce soit dans le cadre de l'école du dimanche, que ce soit dans le cadre de notre témoignage, un témoignage que nous voulons réfléchir, que nous voulons construire, que nous parlons de notre foi. Je dois renoncer à satisfaire ma chair, c'est-à-dire renoncer à satisfaire mes envies naturelles, l'envie naturelle de tout faire tourner autour de moi. Mon envie de bien-être pour entrer dans un service pour Dieu. Je dois parfois renoncer à des loisirs légitimes pour me former, pour connaître Dieu et pour le faire connaître. Paul donne cette image du soldat qui, bien sûr, n'est pas littérale. Et je crois qu'il y a eu tellement d'erreurs faites quand on parle de croisade ou de guerre sainte. Ça, c'est vraiment une catastrophe qui était là. Et de même que le mari ne va pas abandonner femme et enfant pour partir en mission, ce serait contre l'enseignement biblique et contre ses responsabilités. Mais Paul appelle à se limiter pour plaire à celui qui nous a appelés et qui nous envoie dans ce monde. L'image de l'athlète va dans le même sens. En 1 Corinthiens 9, Paul utilise cette même image en rappelant qu'il traite durement son corps. Il ne veut pas se laisser aller à une vie et à des comportements qui enlèvent toute crédibilité à ce qu'il enseigne. Et puis l'image du cultivateur. Si nous voulons des fruits, si nous voulons que quelque chose se passe, si nous voulons que l'Église rayonne, nous devons savoir semer, persévérer dans le témoignage, notre annonce de l'Évangile, dans nos invitations, dans nos prières. Et bien sûr, nous le savons, il n'y a pas de garantie, pas de règle fixe, hein, il n'y a pas une nouvelle personne qui se tourne vers Dieu toutes les X heures de prière. Parfois même, notre témoignage persévérant ne donne pas de résultat. On a des exemples bibliques avec Isaïe et Jérémie, qui étaient des prophètes extraordinaires, dont Dieu s'est servi, mais qui n'ont pas eu des résultats visibles, magnifiques. Jérémie, il suffisait qu'il dise quelque chose au peuple pour qu'il fasse le contraire. Mais on a besoin de persévérance. On nous rappelle qu'il y a un prix à payer. Deuxième remarque d'application, c'est que nous avons un but extraordinaire. Nous l'avons chanté bientôt là-haut. La victoire. Et dans les images, il y a chaque fois que Paul donne dans le texte, il y a chaque fois ce but extraordinaire. La victoire du soldat, la couronne de l'athlète, la récolte du cultivateur. Ce sont de puissantes motivations. J'écoutais un skieur qui s'est entraîné pendant des mois et des mois, qui, là au mois de février, faisait son premier podium de la saison. Il disait, mais c'est pour des moments comme ça qu'on s'entraîne. C'est pour ces moments-là. Des mois et des mois d'entraînement et de privation pour cela. Nous avons un but encore plus extraordinaire. Et ça peut être un sujet de prière pour nous, de demander à Dieu de nous convaincre que sa parole est le meilleur, le seul moyen de connaître Dieu. Nous convaincre que nous avons ce but extraordinaire de cette éternité dans la présence de Dieu. De nous convaincre que nous pouvons être des panneaux indicateurs pour nos contemporains, pour leur montrer qui est Dieu et pour leur donner cet accès à Dieu et à l'éternité dans sa présence. Cela va nous motiver dans les moments difficiles, les motiver lorsque nous passons par des temps de lassitude. Nous avons besoin d'être motivés par l'action de Dieu en nous. Et nous prions pour que Dieu nous éclaire et nous rappelle à quel point sa gloire est magnifique. Troisième remarque d'application. Bon, c'est bien joli, mais est-ce que ça me concerne vraiment? Finalement, c'est pour les pasteurs et ceux qui enseignent à l'Église. Mais c'est tout. J'aurais peut-être dû commencer par là, d'ailleurs, comme application, parce que peut-être vous ne suivez plus depuis un moment. En fait, j'ai trois réponses. D'abord, c'est vrai que ce texte vise les responsables et parle du côté pénible de l'engagement. Deuxième réponse, non, il ne vise pas que les responsables. J'ai lu ce texte en introduction, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut venir après moi, tous les disciples, tous les chrétiens sont concernés sans exception. Je sacrifie du temps, de l'énergie, de l'argent pour Dieu. J'accepte de renoncer à des choses qui sont peut-être encourageantes ou bonnes à court terme, mais néfastes à long terme. Je renonce à certains de mes droits pour la cause suprême de Christ. Je ne cherche pas ce qui me plaît, ce qui va plaire à mon ego, à ce qui plaît à mon corps qui n'est pas renouvelé encore et qui reste marqué par le péché. Je recherche ce qui plaît à Dieu, en reconnaissant que j'ai des limites physiques, psychiques, et que je n'ai pas toutes les capacités. Jésus a parlé de croix, et c'est vraiment, dans le contexte, extrêmement choquant. Quand il parle de croix, il parle d'une mort ignoble, très douloureuse, et la souffrance est évidente. Suivre Christ implique que j'accepte maintenant de renoncer à mon propre intérêt pour regarder à celui des autres. J'oublie mes préférences, j'oublie mon individualisme pour rentrer dans un projet communautaire, celui de l'Église et celui du royaume de Dieu. Et puis la foi chrétienne conduit à des difficultés et certaines souffrances. L'intensité n'est pas la même pour tous. Parfois, c'est le rejet, les moqueries, l'incompréhension, l'isolement. Dans certains pays, la prison, l'injustice, la souffrance physique et la mort. Attention aux fausses promesses, aux faux évangiles. La souffrance fait partie de notre appel. C.S. Lewis, qu'on connaît entre autres parce qu'il a fait les chroniques de Narnia, mais beaucoup d'autres choses, parle de la souffrance comme d'un mégaphone. Ce micro-sono, pour employer peut-être des choses plus actuelles. Dieu nous parle encore plus fort parfois par la souffrance. Et il nous rappelle qui il est. Et cela nous rappelle qu'on ne va pas au ciel sans passer par la croix. On n'arrive pas au paradis promis par Dieu sans passer par des moments de souffrance dans cette vie. Alors finalement, est-ce qu'il vaut encore la peine de se tourner vers Dieu ? Pourquoi est-ce que je vais devenir chrétien s'il n'y a pas l'idée que ma vie va devenir meilleure ? Déjà parce que suivre Christ est le seul chemin qui mène au pardon, le seul moyen d'être réconcilié avec notre Créateur. Si je me promène en montagne et que j'ai un chemin légère descente, mais qui mène au précipice, et puis de l'autre côté j'ai cette montée un peu raide, un peu difficile, mais qui mène à ce magnifique restaurant d'alpage avec la petite spécialité café, dessert, etc., ben, je vais prendre cette petite montée, je vais suer un moment dans cette montée, parce que, bien sûr, je sais que c'est évident. Entre le précipice et puis le café d'alpage, le choix est vite fait. Nous suivons Christ, même s'il y a des difficultés, et parfois des difficultés que seuls les chrétiens rencontrent, parce que nous savons que c'est le seul chemin vers Dieu. Nous savons que nous sommes créés pour cela, et nous savons que c'est le chemin de la vie. Et puis, finalement, la souffrance atteint tout le monde. Nous vivons dans un monde injuste et nous vivons dans un corps qui se dégrade. Nous ne pouvons pas échapper à la souffrance. La différence, lorsqu'on connaît Dieu, c'est que Dieu utilise cette souffrance. Et en plus, il accompagne ceux qui souffrent. Il donne tout son sens à ces temps de souffrance. Refuser d'être chrétien peut éviter parfois certaines souffrances à court terme. Oui. Mais la souffrance fait de toute façon partie de la condition humaine. Et nous avons ce privilège de pouvoir vivre ces temps avec Dieu. Je termine avec les 6 versets suivants, toujours dans 2 Timothée 2, à partir du verset 8. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, issu de la descendance de David, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Christ Jésus avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Souviens-toi de Jésus-Christ, l'homme qui descend de David, l'homme qui a vécu notre vie, lui qui est aussi en même temps fils de Dieu. Il est Dieu, comme la résurrection l'a montré. Il est celui qui a vécu nos limites, qui les comprend. Il est celui qui a le pouvoir de nous aider à traverser chaque difficulté de cette vie. Et Paul le rappelle, lui il est en prison. Condamné à mort d'ailleurs. Mais la parole n'est pas emprisonnée. Les chrétiens ont été malmenés, arrêtés, emprisonnés, mis à mort. Mais la parole de Dieu continue de se répandre parce qu'elle est portée par Dieu. Nous sommes témoins de cette parole qui triomphe de toute opposition. Le but, nous dit Paul, c'est que les élus de Dieu arrivent au salut, à la vie, au pardon, que leur foi grandisse. Et Dieu n'a pas voulu le faire sans nous. Dieu nous associe à son projet. Et il garantit que malgré nos faiblesses, il y aura d'une manière ou d'une autre un résultat favorable. Et c'est pour ça que je peux annoncer l'évangile, c'est pour ça que je peux enseigner. Parce que Dieu agit. Et c'est lui qui va permettre qu'il y ait un résultat. Pas moi, heureusement. Et je termine avec 3 remarques sur les 3 derniers versets. Peut-être un chant de l'Église primitive. Il y a tout d'abord un encouragement, verset 11. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Et même au début du verset 12, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. C'est un encouragement. La mort à nous-mêmes, le refus de servir notre petite personne, nous conduisent à la gloire, par la grâce de Dieu. Nous ne cherchons pas la souffrance, bien sûr. Il n'est surtout pas demandé de rechercher les problèmes. Jamais, il n'est jamais demandé de se faire volontairement souffrir pour progresser. Un petit peu comme on le voit dans certaines caricatures de ce qui se passe au Moyen-Âge, ou comme Luther l'a essayé au début de sa vie. Mais nous ne devons jamais refuser la voie de l'obéissance pour servir notre bien-être. Et nous savons que cela est provisoire. Bien sûr, lorsque nous souffrons, nous avons l'impression que cela dure, dure. Et on a une perception qui est tordue de la réalité. Dès que nous entrons dans la souffrance, nous avons l'impression que c'est très long. Il y a cette promesse que nous partagerons cette gloire de Dieu, sans souffrance, sans larmes, sans deuil. Un encouragement. Un avertissement. Si nous le renions, il nous reniera. Jésus le dit aussi. Et ceux qui s'opposent à Dieu, ceux qui s'éloignent de Dieu, seront reniés par Dieu. Et c'est un avertissement solennel. La foi, ce n'est pas simplement je fais une prière quand je suis jeune. J'accepte de suivre Christ tout au long de ma vie. La foi est persévérante, grâce à Dieu. Et puis un soulagement. Si nous sommes infidèles de manière ponctuelle, lorsque nous avons un accès de faiblesse, nous pouvons compter sur le pardon de Dieu. Pierre a renié Jésus, mais il est revenu. C'est la différence entre Pierre et Judas. Pierre a renié, il a pleuré amèrement, il a reçu, accepté le pardon de Jésus par la suite. Judas s'est enfermé et s'est éloigné. Un éloignement durable peut montrer que la personne n'a en fait jamais été enfant de Dieu. Et l'avertissement est réel. Mais nous ne vivons pas dans la crainte du moindre écart. Et jour après jour, nous avons tous besoin de ce pardon de Dieu. Et il est fidèle. Il accorde sa grâce. Et c'est une consolation puissante qui nous aide chaque fois que nous tombons. Parce que chaque fois que nous nous relevons, nous regardons à Dieu, nous recevons. Nous pouvons être certains que nous avons reçu sa grâce et que nous sommes dans sa grâce. Je conclus. Témoins de Christ, soyons fortifiés pour supporter le prix de notre engagement glorieux. Témoins de Christ, soyons fortifiés pour supporter le prix de notre engagement glorieux. Et c'est tout le danger de l'évangile de la prospérité. Dieu veut que ses enfants soient riches et en bonne santé dès maintenant. Et c'est faux. Ou, de manière un peu plus subtile, Dieu est à notre service et il va forcément, puisque nous sommes enfants de Dieu, nous accorder un confort supérieur à ceux qui ne le connaissent pas. C'est un faux évangile, opposé à ce que Paul annonce. Suivre Christ ne préserve pas de souffrances et d'épreuves. Et parfois, il y en a davantage à cause de notre foi. Et il y a ce combat pour apprendre à renoncer aux désirs de notre chair. Et j'aime bien cette image du soldat. Et en préparant cette prédication, j'ai pensé à un paquebot, le Queen Mary. Lorsqu'il est entré pour la première fois dans le port de New York, le 1er juin 1936, il transportait 1849 passagers et 1186 membres d'équipage. Paquebot luxueux. Pour la première fois à l'époque, des salles de bain individuelles équipaient les cabines de première et de deuxième classe. 3 ans après ce voyage inaugural, Seconde Guerre mondiale. Le superbe navire est repeint en gris et il entame une carrière militaire. Fini les aménagements intérieurs luxueux, les boiseries, les cristaux d'art. On met à la place des canons antiaériens. Et alors qu'il pouvait transporter 1849 personnes, maintenant il peut transporter 15 000 soldats. Et en 1946, le Queen Mary est rendu à la vie civile, et de nouveau un an de travaux pour qu'il retrouve toute sa superbe. Entre un navire de luxe et un navire de guerre, il y a une différence énorme. Il a fallu beaucoup d'aménagements et sacrifier énormément de confort pour multiplier par 8 le nombre de personnes transportées. Sacrifier le confort. L'enfant de Dieu est appelé à être, dans ce sens-là, un soldat de Christ. Il ne combat pas avec des armes terrestres, mais il est prêt à sacrifier certains droits, une partie de son confort, pour plaire à celui qui l'engage et parce qu'il a ce désir d'annoncer un message de vie, un message extraordinaire. Et le danger pour nous, c'est que nous nous croyons en temps de paix et qu'on refuse les sacrifices nécessaires. Et pour cela, Paul nous encourage. Il montre le règne à venir. Et il dit que les difficultés actuelles nous paraîtront tellement faible par rapport à ce que nous connaîtrons en joie. Et celui qui dit ça, c'est Paul, l'apôtre Paul qui a connu tant de souffrances, qui a été laissé pour mort lorsqu'il était lapidé, qui a été largement persécuté pour sa foi, qui dit « Mais les souffrances actuelles sont tellement faibles, nous paraîtront tellement pâles par rapport à la gloire à venir. » Notre vie, notre témoignage pour Christ ne peut pas être vécu selon nos propres forces. Nous devons dépendre de Christ. Nous avons besoin de nous laisser fortifier par lui, recevoir en lui force, motivation, le soutien pour chaque jour continuer notre marche. Nous avons besoin qu'il renouvelle les forces en nous pour que chaque jour, nous acceptions de résister à la paresse, à la distraction, à l'attrait du mal. Dieu est fidèle. Il agit en nous. Il renouvelle nos forces. Témoins de Christ, soyons fortifiés pour supporter le prix de notre engagement glorieux. Je vous propose quelques instants de silence et je terminerai par la prière. Notre Père, merci pour ce privilège de venir à toi. Merci aussi pour ta grâce qui nous permet de nous relever. Merci notre Dieu de pouvoir marcher jour après jour avec toi. Tu connais exactement nos conditions de vie, tu sais ce que nous vivons chacun et nous voulons nous placer devant toi. Je te prie de renouveler notre motivation à chacun pour que là où nous sommes, nous continuions à être des témoins. Donne-nous de toujours plus désirer ce que tu aimes. Transforme nos cœurs, transforme nos pensées, transforme notre intelligence. Nous avons besoin de toi. Nous sommes incapables par nous-mêmes, mais nous comptons sur l'action de ton esprit. Donne-nous de toujours mieux comprendre ta parole pour mieux la vivre. Donne-nous de pouvoir aussi la transmettre. Donne-nous ce privilège d'être de ceux qui transmettent cette parole, parole de vie. Et je te prie aussi d'œuvrer en nous afin que nous soyons toujours plus motivés par ta personne, tes promesses et cette gloire qui nous attend. Notre Dieu, merci de pouvoir nous placer devant toi. Merci parce que nous avons cette certitude que malgré nos faiblesses et nos limites, nous pouvons nous tourner vers le Dieu de grâce pour que notre vie soit toute à ta gloire. Amen.